C'est le temps de passer à la chronique psychologie sociale. Et là, je vais vraiment bien la présenter, Roxane de la Sablonnière, qui est professeure titulaire du département, au département de psychologie de l'Université de Montréal. Écoute, Roxane, tu as des titres intéressants, co-directrice du laboratoire sur les changements sociaux, l'adaptation, le bien-être, directrice scientifique, voyons, maintenant qu'il y a des problèmes, directrice scientifique de l'axe 1, prévention du réseau québécois COVID-pandémie. Oui, on va parler de COVID. Bonjour!
On va surtout parler de solitude. Bonjour!
De solitude, oui, oui, pendant les pandémies.
Exact. Ben,
c'est un plaisir, donc, de se rencontrer. Moi, j'écoute la chronique régulièrement parce que je suis un auditeur de l'émission, alors, habituellement, quand Hélène l'anime. Alors, donc, on parle de solitude.
Oui, exactement. Puis, je voulais aborder cet angle-là parce qu'il y a eu beaucoup de préoccupations, beaucoup d'inquiétudes au début de la pandémie. Si vous vous souvenez bien, on a été isolés, hein?
Oui.
Du jour au lendemain, dans nos maisons, on ne pouvait plus sortir ou à peine. Donc, il y a eu beaucoup de questionnements de la part des scientifiques à savoir qu'est-ce qui va se passer au sujet de la solitude chez les gens. Parce qu'on savait que la solitude, c'était avant la pandémie,
oui,
déjà un fléau.
Tout à fait.
Donc, puis ça entraîne beaucoup de difficultés sur le plan psychologique aussi, de la grande détresse, ça peut entraîner de la dépression. Puis on compare même la solitude à des problèmes tels que l'obésité ou les dépendances aussi. Donc, c'est vraiment une problématique sociale qui était importante, même avant la pandémie.
Et pendant la pandémie, ça a été exacerbé. Puis, je vais me permettre quand même de souligner que lorsqu'on a fait l'isolement, lorsqu'on est au genre « vous restez chez vous », on n'a pas pris en considération que les gens qui habitent en ville sont souvent des personnes seules qui se sont retrouvées encore plus isolées,
oui,
et des gens qui souvent ont plein d'autres problématiques. Il n'y avait pas beaucoup de soutien de ces personnes-là. Donc, on a vraiment là vu quelque chose d'épouvantable. Là, j'en parle parce que je l'ai vu, je l'ai expérimenté avec mon autre chapeau. Alors,
ouais. Oui, tout à fait. Puis aussi, il faut faire une distinction entre deux concepts. Donc, le premier, c'est l'isolement social,
mm-hmm,
puis la solitude.
Ouais.
Donc, l'isolement, c'est le fait, par exemple, comme vous l'avez dit, de vivre seul ou de ne pas avoir de contacts sociaux ou très peu. La solitude, c'est plutôt un sentiment qui est subjectif. Donc, c'est comment on se sent par mm-hmm rapport à nos relations ou nos contacts,
oui,
sociaux.
Parce qu'on peut vivre la solitude avec, oui, plein de monde autour de nous, là.
Exactement. Tu sais, comme l'image d'être seul dans une foule.
Oui.
Il y a plein de monde qui nous entoure, mais on se sent très seul.
Mm-hmm.
Ou on peut être seul à la maison, mais ne pas se sentir seul aussi. Donc, isolé, ne pas se sentir seul.
Mais il y a des gens qui sont bien tout seuls.
Oui, exactement. Par contre, ces deux concepts-là, ces deux variables-là, l'isolement et la solitude, sont quand même reliés. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de préoccupations en lien avec ça au début de la pandémie. Donc, ça demeure un facteur de risque qui est quand même important, le fait d'être isolé socialement des autres. On s'est posé beaucoup de questions sur le plan de la recherche. On voulait savoir, par exemple, c'est quoi l'impact de la solitude à long terme. Mmh. Donc, on ne parle pas d'un isolement pendant 2 jours. Là. On parle de plusieurs mois, puis ça s'est étendu à différentes périodes aussi. On s'est questionné, est-ce qu'il y a des groupes plus vulnérables que d'autres? Vous avez parlé d'un autre chapeau, donc...
Oui, bien, les gens le savent peut-être pas. J'aurais dû le spécifier dans mon autre vie, parce que j'en ai plusieurs.
Oui.
Je ne suis pas seulement animateur ici. Je suis aussi gestionnaire de nos BNL.
Mm-hmm.
Pour les personnes vivant avec le VIH, puis pendant la pandémie, bien, beaucoup de nos participants et participantes se sont retrouvés, déjà qu'ils sont dans la solitude, se sont retrouvés isolés. Ça a été très difficile pour eux et pour elles.
Exactement. Donc, on a voulu explorer cette question-là. Est-ce qu'il y a des groupes plus vulnérables que d'autres? Mm-hmm. Puis finalement, on s'est posé la question, c'est quoi le rôle des contacts sociaux virtuels?
Ouais.
Donc, est-ce que ça peut offrir un baume aux gens ou à la population en cas d'isolement social? Donc, on s'est posé ces questions-là. On a fait un sondage représentatif de la population canadienne de plus de 3000 personnes. Puis on a pris un échantillon qui avait répondu à la majorité de nos questions, donc un total de 1763 Canadiens et Canadiennes qui ont répondu entre avril 2020 et avril 2021. Ils ont rempli des questions au sujet de la solitude à 11 reprises au cours de cette période. Et puis, on a fait des analyses statistiques qui ont fait ressortir 5 groupes.
Mm-hmm.
Puis, les résultats ont montré, premièrement, qu'il y a 2 groupes, ceux qui étaient pratiquement toujours élevés en solitude au cours de ces 11 points dans le temps. Il y avait deux de ces groupes-là quand même assez élevés. 30 % disaient rapporter vraiment quasiment toujours de la solitude. Mmh. Donc, c'est très préoccupant. Puis c'est quand même plus élevé que d'autres chiffres qu'on a pu observer dans d'autres études aussi. Il faut se rappeler que notre étude a été faite à long terme, donc sur plusieurs mois. Et on voyait que c'est une tendance qui se maintenait aussi, bien que ça diminuait un petit peu dans le temps, la solitude, probablement parce que les mesures devenaient moins rigides aussi. Mais il reste qu'il y a quand même un 30% qui était très élevé en solitude. Et là, on s'est posé la question, qui se retrouve dans ces trajectoires?
Et ça, c'est intéressant. Je ne dévoile pas, mais c'est intéressant. Je veux qu'on souligne. Allons-y.
Intéressant parce que intuitivement, on se rappelle, au début, on parlait beaucoup des personnes âgées, puis c'est normal de s'inquiéter. Mais ce qu'on a réalisé, c'est que c'est surtout les plus jeunes qui se trouvaient dans en plus grande proportion, qui se retrouvaient dans ces trajectoires, si on peut dire, de solitude très, très élevée. Donc, les jeunes ont beaucoup souffert de la solitude pendant la pandémie. Ça ne veut pas dire que les autres groupes, les autres personnes n'ont pas souffert. On retrouve aussi des gens de tous âges, de tout type de population dans ces trajectoires de solitude plus élevées, mais les jeunes s'y trouvaient en plus grand nombre. On explique ça parce qu'ils doivent, à cette période, développer leur identité, développer qui ils sont. Ils ont besoin des autres aussi pour se construire. Donc, on peut l'expliquer comme ça. Puis finalement, comme je l'ai mentionné plus tôt, on s'est intéressé au rôle des contacts sociaux en ligne, des contacts virtuels. Souvent, on entend les gens dire « c'est correct que je vois les membres de ma famille sur Zoom ou bien sur Facebook, j'ai des contacts avec eux, donc ça se passe. » Tu sais, on essaie peut-être de se convaincre un peu que les contacts virtuels offrent un remplacement. Mais les résultats nous ont montré que non. Ni pour les jeunes, ni pour les plus vieux, ni pour ceux qui ont des enfants. Donc, finalement, les contacts virtuels, plus on en a, plus ça peut avoir un impact sur notre sentiment de solitude aussi. Ça ne va pas combler le manque.
Non, et de toute façon, je pense que les gens, je me rappelle, on fait encore des réunions par visioconférence. Et moi, j'avoue, là, j'en ai assez de ça. Là, je ne suis plus capable. Alors, je dis aux gens, regarde, on va faire moins de réunions, mais on va faire en personne si on peut.
Oui, je pense que ça soulève vraiment le point d'avoir une réflexion qui est profonde en lien avec ce qui s'est passé avec la pandémie, aux problématiques sociales aussi, incluant la solitude, puis de peut-être repenser qu'est-ce que ça veut dire d'avoir des liens significatifs avec autrui, avec les autres, puis d'essayer de prendre des actions peut-être personnelles ou individuelles, mais aussi des actions plus collectives, que ce soit au niveau des gouvernements ou des organismes. Par exemple, si on se sent isolé, si on est isolé et on se sent très seul, peut-être qu'il y aurait des moyens de s'engager socialement, soit en faisant du bénévolat ou en aidant un proche ou quelqu'un dans la rue. Donc, d'essayer d'avoir des liens avec autrui qui sont concrets et directs et de ne pas penser que les contacts virtuels peuvent tout remplacer. Il n'y a rien, dans le fond, ce que nos résultats nous ont montré qui remplace ces contacts humains-là, qui sont nécessaires au bon fonctionnement de l'humain et des communautés aussi.
Donc, qu'est-ce qu'on doit conclure de tout ça? Je sais qu'on vient de dire que les contacts humains ne peuvent pas... les contacts virtuels ne peuvent pas remplacer les contacts humains. Et ça veut dire que s'il y a une prochaine pandémie, on fait quoi?
Bien, s'il y a une prochaine pandémie, mais on parle de pandémie, mais ça peut être des crises aussi plus locales, comme... les inondations qu'on a vues, des fois des crises en lien avec les changements climatiques. On peut voir ça arriver prochainement aussi. Donc, de ne pas oublier de mettre un accent sur la création d'un environnement qui est propice aux connexions. Mm-hmm. Ça passe par l'inclusion sociale, la compassion, le soutien social des autres aussi. Donc, d'avoir un regard qui est tourné peut-être vers autrui, puis de se rappeler qu'on est mieux ensemble que seul.
En tout cas, il y a beaucoup de choses que cette pandémie-là nous a appris. Moi, je pense toujours aussi au fait que notre système de santé mentale, je vais utiliser, ou de santé psychologique, est sous-financé, puis on voit bien les résultats. Puis on voit bien les résultats dans la rue, ici à Montréal et dans plein de villes. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de travail pour les personnes comme toi qui font de la recherche et qui pourraient peut-être nous en dire davantage et comment on pourra mieux faire la prochaine fois, mais je sais pas, est-ce qu'on apprend de nos erreurs?
Bien, moi, ma préoccupation, ma crainte, c'est qu'on oublie.
Oui.
Qu'on se remette dans nos pantoufles, qu'on oublie que ça existait. On ne veut plus trop s'en rappeler. On veut continuer à vivre, c'est normal.
Oui.
mais de vraiment créer des environnements, que ce soit au niveau gouvernemental ou dans les universités ou les organismes communautaires aussi, de penser que de prochaines crises peuvent arriver aussi, puis ouais. d'être prêt, d'être vraiment prêt à outiller la population lorsque ça arrive.
Ben écoute, on va compter sur toi pour nous en donner plein d'exemples de ce qu'on pourra faire mieux, parce que c'est des chercheurs comme toi qui vont nous aider. Merci Roxane de la Sablonnière, quand même un docteur PhD, professeur titulaire au département de psychologie de l'Université de Montréal.
Merci, au revoir.